Podcast RTBF Sport. Complètement foot. Diva Sport, complètement foot. David Oudret et Nordine Jbari.
Nous poursuivons donc le débriefing de ces différents matchs en play-off 1, play-off 2, Champions Play-off, Euro Play-off et puis en play-down avec Nordine Jbari qui est mon consultant ce dimanche. Dans un instant, Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport. Et puis on continuera évidemment le débriefing avec les d'autres réactions, interviews concernant ces matchs avec entre autres ces deux matchs du jour en Champions Play-off et ces deux défaites bruxelloises contre Club Brugeois. L'Union battue par le Cercle 2-3, le club qui a battu Anderlecht 3 buts à 1. On le rappelle donc, petite histoire à la Belge, oui, rapidement, parce que je veux faire réagir aussi Alexandre Boucaud dans un instant à ce sujet, et j'ai rappelé, donc voilà, Burgess aurait pu jouer ce match aujourd'hui contre le Cercle de Bruges. Mais la procédure a fait que ça n'était pas clair, tout était décalé à cause du congé du lundi de Pâques de la semaine dernière, oui. Et que le club n'a reçu l'officialisation, et donc le mail, on peut pas prendre le risque, Nordine, de faire jouer Burgess et puis de se rendre compte le mail qui arrive pendant le match confirme qu'il ne pouvait pas jouer. Ils ont joué la prudence du côté de l'Union, mais ils sont pas contents, parce qu'ils disent, voilà, nous on s'est privé de notre joueur et on reçoit une officialisation avec un mail pendant le match.
Ils ont préféré chercher les œufs de Pâques plutôt qu'envoyer le mail à un club qui joue le titre dans les play-offs 1 avec un joueur très très important qui aurait pu faire la différence aujourd'hui, parce qu'on a bien vu que sans lui cette défense unioniste est aux abois. Donc si ce que vous dites, parce qu'on le dit au conditionnel ici, parce que si ce que vous dites est vrai, c'est un scandale.
C'est ce qui s'est passé, en tout cas, ça c'est sûr.
C'est une honte. Franchement, c'est pas sérieux.
Du côté de l'Union, on n'est pas content.
Mais ils ont raison.
On dit que, c'est un peu bizarre comme timing. Surtout que pour envoyer un avertissement à Blessine et à Lazare après leur déclaration en conférence de presse vendredi, on vient de l'évoquer, là, ça a été apparemment beaucoup plus rapide.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, il faut demander le pourquoi du comment et qui a tardé et comment ça s'est passé pour que ça arrive pendant le match. C'est un problème. C'est un manque de professionnalisme, tout simplement.
On pense que cette procédure va, à mon avis, va devoir être resserrée. On va devoir resserrer les boulons, certainement, du côté de la Fédé. On n'est pas content du côté de l'Union à ce sujet.
Ils ont raison, parce que
une nouvelle fois, on nous met des bâtons dans les roues. Ce sont des
Faut pas, il faut pas être jusque-là. Je pense pas que c'est, mettre des bâtons dans les roues. Je pense que c'est encore plus triste que ça. Je pense que c'est un amateurisme. Vraiment. C'est de l'amateurisme. Je pense que la personne qui a envoyé le mail, tout d'un coup, à regarder le match, il s'est dit, mais il joue, l'Union joue, et donc, mais je suis sûr, mais pourquoi l'envoyer à ce tour-là? Je veux dire, alors il fallait l'envoyer le lendemain, c'est mieux,
Mais l'appel a été déposé officiellement par le parquet ce matin, et ça a mis un peu de temps pour que le mail arrive au club, donc, début d'après-midi, à 15h, en plein pendant ce match.
Ils ont envoyé un fax ou quoi?
Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport, nous rejoint, vous le savez, régulièrement dans Complètement Foot, en alternance avec le plateau de la Tribune, où vous vous croisez souvent tous les deux.
Hein,
vous vous alternez, vous vous affrontez parfois tous les deux, non avec.
On fait des débats.
Vous avez bien raison, Nordine. Alexandre Boucaud, donc, nous rejoint en direct, je pense qu'il est là. Bonsoir, Alex.
Bonsoir, David. Bonsoir, Nordine.
Salut, Alex. Vous connaissez Nordine, hein?
On se connaît.
Je me demande si.
Bien. Ça va, il me chahute pas trop.
Bon, on va commencer tout de suite par ça, Alexandre. Alors évidemment, vous êtes notre arbitre RTBF Sport. Vous allez plutôt vous exprimer sur les décisions qui ont été prises sur le terrain. On a rappelé la procédure, en tout cas, telle qu'elle s'est déroulée concernant Burgess tout au long de cette semaine, avec la particularité de ce jour de lundi de Pâques, jour dans lequel devait avoir lieu cette commission décalée à vendredi. Mais quand même, Nordine le dit, un mail qui arrive pendant le match pour officialiser la chose, Alexandre. Que s'est-il passé? On va devoir enquêter, évidemment, et c'est pas nous qui allons le faire ce soir en studio, ni vous à distance, mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est normal que l'Union se plaigne de cette tardive décision, non, Alexandre?
Oui, c'est normal. Alors, je vous avoue, je suis allé chercher le règlement fédéral, parce que il s'agit ici de procédures disciplinaires qui vont en fait dans la conséquence des décisions arbitrales, mais qui n'ont rien à voir directement avec l'arbitrage. Néanmoins, je suis allé faire un tour dans le règlement. Je pense avoir trouvé le bon article, qui n'est pas simple à comprendre. Et donc, on peut peut-être le repasser en revue avec vous. Donc, lundi soir, Burgess prend sa carte rouge. Normalement, pour le mardi après-midi, il a reçu sa proposition de 2 matchs plus 1. Vous me corrigez hein, si vous avez d'autres infos. Proposition qu'ils ont refusée et pour laquelle ils ont comparu, je pense, avec leur avocat mercredi. Et puis, vendredi, fin de journée, on leur signifie 1 plus 1. Alors, quand on va dans le règlement, il est mentionné que donc... que je comprends, hein, parce que c'est du français, mais c'est pas, tout n'est pas simple. Donc, on comprend bien que l'Union avait jusqu'aujourd'hui midi pour faire appel. Ça, c'est... Il est marqué. Le club dispose jusqu'à 12h, le deuxième calendrier suivant la notification. Donc, c'était aujourd'hui midi.
Ce qu'il n'a pas fait.
Si l'intéressé... Ouais. Ce qu'ils n'ont pas fait. Si l'intéressé interjette appel, le parquet dispose d'un délai supplémentaire jusqu'à 20h, le deuxième jour suivant la notification de la décision. Donc, ça veut dire que si l'intéressé interjette appel, le parquet aurait eu jusque ce soir 20h pour interjeter un appel. Bon, là, je ne comprends déjà pas pourquoi le parquet interjette un appel sur l'appel du club. Mais comme ils n'ont pas fait appel, je ne vois pas pourquoi ça devrait s'appliquer. Et alors, deuxièmement, je ne trouve nulle part, parce qu'il y a une autre mention qui parle des séances du comité disciplinaire du football professionnel qui ont lieu le mercredi suite à un match du lundi soir. Mais on ne parle jamais de jour férié. En tout cas, dans la version francophone du règlement, on parle jamais dans cet article de jour férié. Par contre, dans la version néerlandophone, est-ce que c'est ça qui pose problème ? Il y a virgule avec 3-4 mots qui traitent des jours fériés. Donc voilà, là, il y aura peut-être quelque chose à vérifier. Néanmoins, voilà, dans tous ces délais, je ne retrouve pas comment le parquet avait une raison, enfin, dans la procédure, je ne retrouve nulle part l'explication pouvant justifier qu'à 15h aujourd'hui, on leur envoie ça.
Oui, voilà, apparemment, le procureur de lui-même a décidé de faire appel en disant qu'un plus un, ce n'était pas suffisant. Il a fait appel et déposé avant midi ce dimanche. Ça colle au délai que vous nous avez donné. Et évidemment, il a fallu le temps que la communication passe jusqu'à l'Union Saint-Gilloise. Mais il jouait cet après-midi. Et donc, voilà. Donc, peut-être qu'on n'a pas encore évoqué, en effet, ce cas de figure particulier où on décale les matchs un lundi de Pâques. Ça décale la commission vendredi, si finalement ce cas improbable où le procureur lui-même veut quand même faire appel de la décision qui est prise, on se retrouve un dimanche. Je pense que c'est arrivé, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est arrivé une fois, je pense que ça n'arrivera plus. Enfin, j'espère que ça n'arrivera plus, ce genre de scénario complètement incroyable. Non, Nordine n'est pas convaincu, je vais me tourner vers Alex.
Je ne suis pas convaincu.
J'ai dit,
parce qu'il y a
j'ose
déjà...
espérer. Non, mais il y a un problème de traduction.
Non, mais je ne suis pas convaincu parce que déjà, notre ami Alex dit règlement francophone, il n'y a pas de jour férié. Néerlandophone, il y a des jours fériés. Donc, ce serait quand même
souvent,
bien.
Souvent, c'est l'inverse. Hein. Souvent, on reproche à la Wallonie d'avoir trop de jours fériés et trop de jours de congés. Pardon,
ça serait quand
petite
même
blague.
Bien qu'on
excusez-moi,
règles,
pas de bagarre linguistique.
Qu'on ait une règle pour tout le monde. Voilà.
Bon.
Donc, déjà, s'il y a ça, ça sent pas bon.
On va essayer d'éclaircir cela. Mais en tout cas, merci d'avoir relu les règlements, mon cher Alexandre, concernant ce cas précis. Mais voilà. Du côté de l'Union, on n'est pas content. Donc, affaire à suivre, comme on dit, dans ces cas-là. Concernant la prestation globale de nos différents arbitres ce week-end, Alex Nordin, globalement, ça s'est bien passé, on peut dire ça comme ça?
Ouais, enfin, moi, j'ai commenté le match de l'Antwerp et l'arbitre a été très bon. Sauf pour une chose. Pour le cas Janssens.
Ah, vous voulez reparler de Janssens?
Non, mais je pense qu'Alex, il est pro, il a tout vu. Donc, pourquoi il doit être exclu? C'est pas la première fois. Il doit être exclu, il l'est pas. Il a une jaune, il bouscule quelqu'un, mais d'une manière assez agressive, et on lui donne pas la jaune à ce moment-là. Et c'est pas la première fois. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne pas la jaune à ce moment-là?
Antwerp gagne 0-1, victoire pour les Limbourgeois. Nordine, vous demandez s'il y a un totem d'immunité pour
Oui, j'ai l'impression. Janssens, franchement, j'ai l'impression parce que c'est la première fois. C'est pas la première fois qu'il mérite d'être exclu dans des phases où il est un peu nerveux. Et à chaque fois, il n'est pas arrêté par la patrouille, comme on dit.
Alex, que répondre à ça?
Ouais, bah, je pense qu'il y a pas de protection particulière du
c'est
cas
une manière
Janssens.
De parler. Hein.
Oui, non, mais. Après, je crois que les arbitres dirigent leur match avec leurs émotions, avec leur sensibilité. Alors après, évidemment, si on dit qui doit être exclu. Alors, c'est toujours compliqué avec des situations. Hein. Je prends toujours la règle du 1 plus 1, où on veut des fautes claires pour justifier d'une deuxième carte jaune, etc. C'est un cas compliqué. C'est un cas qui revient, qui est encore revenu la semaine dernière, mais dans l'autre sens, parce que là, il avait été puni finalement un peu à tort. Donc... C'est complexe, à suivre en tout cas.
Monsieur Dont était au sifflet de ce match Antwerp-Genk. Première sortie entre le Sporting Charleroi et leur WDM en play-down. On l'a évoqué il y a quelques minutes avec Hervé Gilbert, avec Nordine Jbari. Et là, le consultant et journaliste ne sont pas d'accord. Parce que justement, Hervé Gilbert lui estimait qu'il y avait un pénalty au profit du Sporting de Charleroi. Juste avant la demi-heure, Nordine.
Pour moi, il n'y a pas pénalty.
Ça, là, vous n'êtes pas d'accord. Hervé estimait qu'il y avait une poussée dans le dos. L'avis de notre arbitre RTBF Sport, Alexandre Boucaud, à la 27e. Donc, y avait-il un pénalty sur Diagone ou Diagon?
Alors, moi, je suis plus pour pénalty. Il y a déjà un premier contact du pied dans la course, tout à l'entrée du rectangle. Et puis ensuite, il le prend de vitesse. Donc, il est devant. Le défenseur va s'appuyer dans son dos, va finalement le déstabiliser. Maintenant, j'aime pas utiliser et user de la zone grise, mais en tout cas, on est bien dedans et c'est pour ça que le VAR n'intervient pas, parce qu'on est, on reste dans un duel qu'on peut qualifier d'acceptable avec l'usage d'une seule main, et donc je sais que le VAR doit faire la différence entre une main, une poussée claire, s'appuyer, l'usage des deux mains. Donc voilà. Ah, donc en conclusion, moi je dis plutôt, quand je vois ça, plutôt penalty, mais pas d'intervention du VAR, elle n'a pas eu lieu et en effet, à partir du moment où l'arbitre ne le siffle pas, il n'y avait pas lieu à une intervention, ce n'était pas non plus clair et évident.
Par contre, quelques minutes plus tard, en deuxième mi-temps, pénalty pour le RWDM, votre avis sur cette phase, Alexandre Boucaud, et puis je fais intervenir Nordine Jbari aussi sur... Voilà, Nordine n'est pas d'accord ou content avec le fait que ça prend beaucoup trop de temps avant que ce pénalty soit botté. D'abord sur la phase, Alex.
Bah oui, je crois que l'attaquant est en possession du ballon. Heymans va jamais toucher le ballon. Ouais. C'est un tacle qui a l'air fautif, qui a l'air clair et évident. Heymans se prend lui-même tout de suite la tête dans les mains. Donc voilà, je crois que c'est assez clair.
Moi, c'est pas sur ça que je voulais discuter.
Il y a pénalty.
Ah oui, c'est clair. Ouais. Oui, c'est clair. Il y a pas de souci, mais. Moi, je comprends pas comment les arbitres doivent comprendre que tirer un penalty, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est plus facile pratiquement pour un gardien que pour le tireur de penalty. Et au plus le temps est pris avant de tirer, au plus il y a du temps avant de tirer, au plus c'est compliqué. Et tous les arbitres, moi, je suis très relax avec ça parce que moi, je le dis très souvent, c'est pas la première fois. Les arbitres vont pratiquement chez tous les joueurs qui sont sur la ligne pour leur dire attention, hein. Pas mettre le pied avant que le pénalty soit tiré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il prend tout son temps. Parfois, il va même après chez le gardien pour lui expliquer encore une fois la règle. Et entre-temps, il y a le gars qui doit tirer pénalty, qui doit rester bien concentré.
Sans compter les interventions du VAR.
On ne s'appelle pas tous Zidane ou Karim Benzema, il faut le savoir. Ou Ronaldo qui ne rate pratiquement jamais un pénalty. Et en plus, on arrive, tout d'un coup, ça sort de nulle part, le VAR décide de vérifier un truc qui était... un hors-jeu. Après, je suis pas assez... Alex, vous avez vu la ligne après, qui a été tracée. Si là, il faut une vérification du VAR, ça devient compliqué. Alors, on va vérifier toutes les 30 secondes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, les arbitres doivent comprendre qu'il faut, comment dirais-je, il faut quand même penser aussi aux tireurs. Les arbitres prennent vraiment trop de temps à vérifier tout ce qui se passe autour, alors que le tireur est là aussi. Et qui doit tirer. Au plus ça prend du temps, au plus c'est compliqué pour lui.
Alexandre Boucaud, votre avis sur cette remarque de Nordine?
Non, mais je comprends bien l'aspect joueur et l'aspect déconcentration du tireur. Maintenant, dans ce genre de situation, il y a deux choses à voir. C'est d'abord, est-ce qu'il y avait faute ou pas? Donc, est-ce qu'il y a réellement un pénalty? Je crois que de ce côté-là, ça n'a pas dû leur prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et puis ensuite, en effet, ils doivent vérifier toute l'attaque. S'il y a un hors-jeu limite, le vérifier, le tracer. Et c'est vrai que avec tout ce qu'on a eu jusque maintenant et ces dernières semaines, d'un autre côté, j'ai envie de dire mieux vaut qu'ils prennent une semaine, non, une minute.
Lapsus que ça. Même la commission disciplinaire n'y arrive pas en une semaine, Alex.
Mieux vaut qu'ils prennent une minute de plus pour prendre une décision qui sera correcte que l'inverse. Je crois qu'avec on a eu des cas, on l'a vu, hein, avec le fameux penalty gate à Anderlecht Genk, etc. Il aurait mieux valu encore rester sous contrôle et prendre la décision avant d'avoir tout ce qu'on a connu. Donc c'est vrai, c'est long, c'est embêtant. Ça c'est pour ce qui précède le penalty. Après, au moment où le ballon est placé, je suis désolé, il y a une procédure à suivre. L'arbitre doit avoir une attitude préventive vis-à-vis des joueurs, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. L'arbitre doit faire le tour pour leur demander, aux gardiens également de rester sur la ligne, aux joueurs de rester hors du rectangle. Donc ce sont des procédures qui peuvent prendre plus ou moins de temps. Et je comprends bien que ça peut embêter, mais après.
Les procédures, il ne faut pas aller dire à chaque joueur qui est derrière le rectangle, attention, mets pas ton pied là, ils le savent. Après, on laisse tirer s'il y a quelqu'un. Si le gars il marque, il n'y a pas de problème, hein, même s'il y a quelqu'un qui est rentré, pour moi. Même si c'est la règle, pas la règle. Le problème, c'est si, je comprends très bien, si il rate et qu'on vient essayer de la récupérer après. Mais je trouve que ça prend trop de temps à expliquer à chaque fois les règles. Les gardiens, croyez-moi, ils savent, ils connaissent la règle. Ils le font pas bien, on n'a qu'à recommencer le pénalty à un moment donné. Ça ne me dérange pas. Mais donner autant de temps à expliquer toutes les règles alors que le gars qui est là derrière le pénalty...
Nordine, je me souviens plus, vous bottiez tous les pénaltys quand vous étiez sur le terrain.
Si, j'ai tiré des pénaltys, mais parfois, vous savez, quand vous jouez au club de Bruges et qu'il y avait Stalens, vous tirez pas.
C'est l'heureux qui prenait le pénalty. Ok, j'ai essayé de me souvenir si vous tiriez les pénaltys, parce que c'était beaucoup plus rapide à ce moment-là, de toute façon.
Oui, non, mais à expliquer, je comprends ce qu'Alexis m'a expliqué, Nordine. Les règles à tout le monde, tout le temps, pendant le match...
Monsieur de Kremer, j'essaie de donner aussi le nom de l'arbitre à chaque fois dans nos débriefings arbitrage avec Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport, avec Nordine Jbari qui est notre consultant complètement foot ce soir. Un petit mot aussi d'Union Saint-Gilloise Cercle de Bruges, un peu plus tôt aujourd'hui, avec entre autres en fin de première mi-temps le pénalty sifflé donc au profit des unionistes. Votre avis, Alex?
Ouais, il y a un contact, il est certes léger, mais il y a un contact clair sur la cheville de la Poussin. Oui. Donc je crois que c'est un pénalty facilement donné et correct. Il y a pas lieu de revenir en arrière. Après, la Poussin en rajoute peut-être un peu pour être sûr que en cas de litige, le VAR va bien confirmer. Mais ça me semblait limpide comme décision.
Ouais, difficile à voir et à revoir sans avoir revu le match dans son entièreté, mais dans cette rencontre aussi, il y a peut-être aussi, Swan et Benjamin, Swan Borsellino, Benjamin De Sonin qui était au commentaire officiel Eleven, insister sur le fait qu'Ekert Onyensa méritait peut-être une première jaune, une deuxième jaune, il a rien eu, est-ce qu'il fallait intervenir sur ces phases ou pas, difficile à dire comme ça.
C'est comme Janssen à l'Antwerp, c'est qu'à un moment donné, l'arbitre, il doit prendre ses responsabilités. Et le problème, c'est là où je suis d'accord avec Alex, ça reste des humains. Il y en a qui sont plus sensibles pour un truc, moins sensibles pour l'autre. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que pour l'Antwerp aussi, Janssen, à la fin, ils sont en train de pousser Genk. L'Antwerp, même si Genk était très bon, il gagne que 0-1. S'il marque après, c'est ça le problème. Chaque personnalité... chaque personnalité voit les choses et ressent les choses d'une certaine manière. La richesse, parfois c'est un problème, mais parfois c'est la richesse aussi.
Dans le direct, il fallait peut-être siffler ses fautes et ses cartons jaunes donc contre Ekert Ayensa dans cette rencontre. Merci beaucoup Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport. Merci Alex.
Eh bien, merci à vous.
Vous avez fait quel temps ce matin? C'est le semi ou le marathon entier que vous avez fait à Namur?
Le semi. Je suis parti trop vite, je me suis effondré sur la fin.
Ah ben bravo.
J'ai fini en 1:53.
À combien pour les spécialistes? Parce que moi, je ne cours pas, mais on n'a pas bien entendu votre
1:53.
Temps.
1:53.
Vous êtes effondré à la fin. Dommage qu'il n'y avait pas le VAR. J'aurais demandé le VAR, moi.
Ils ont fait une bravo. Pétorée qui marque un quai, donc c'est bon.
Un beau parcours à Namur, Alex? Ce semi-marathon,
c'est assez monotone, hein, sur le halage, tout le long de la Meuse et de la Somme, mais assez monotone, mais bon, voilà, il faisait une belle météo. Et
prochain rendez-vous pour vous refaire, ce sera quand?
Je vais attendre, j'ai un match de mini-foot jeudi, je vais voir comment réagissent mes jambes.
Merci Alex. C'est complètement foot en direct comme chaque dimanche soir sur Vivacité. On va poursuivre évidemment avec Nordine Djebari, notre consultant. On va vous proposer les réactions, les interviews aussi après ce match de l'Union Saint-Gilloise, battu donc 2-3 par le Cercle de Bruges. Et puis on enchaînera avec cette défaite aussi du Sporting Anderlecht au Club de Bruges, 3-1. N'oubliez pas, vous pouvez donner votre avis évidemment sur les différents réseaux sociaux de l'émission. En un seul mot, complètement foot ce match, Club de Bruges Anderlecht, score final 3-1 pour vous. C'était, vous allez sur la page Facebook RTBF Sport complètement foot, sur X, ex-Twitter, en utilisant uniquement le hashtag CFoot RTBF, et puis vos SMS 3063, 50 centimes l'envoi, ou encore vos WhatsApp via l'application et via le numéro que vous connaissez bien entendu par cœur, 0470 07 20 23, 0470 07 20 23. Rapide coup d'œil sur ce qui se passe dans les matchs en cours ou qui se terminent. C'est terminé, victoire de la Gantoise 0-3 à Westerlo. Donc voilà, quand on évoquera tout à l'heure évidemment les Europlay-offs, après le partage aussi pour le Standard à huis clos contre OHL 0-0 et la défaite de Malines vendredi, ben voilà, clairement les Buffalo qui sont candidats à cette première place, hein. Ça se confirme.
C'est un échec, 2 ans d'affilée de ne pas être en play-off, hein, mais finalement pour eux, play-off 2, c'est magnifique.
Ouais, il faudra terminer premier, jouer ce match de barrage contre un moins bien classé en Champions Play-off. Ça, on aura l'occasion évidemment de vous en reparler. Un but partout, je vous rappelle aussi en play-down entre la SEP et Courtrai dans les matchs ce dimanche. En Challenger Pro League, c'est terminé. Framborin, RFC Liège 2-2. Une chose est sûre, le Berscott qui s'est imposé tout à l'heure à Ostende 1-2 est sûr de monter, de remonter deux ans après. Hein, ils vont retrouver les Anversois.
C'est chouette.
La division 1A. Content de retrouver le Berscott.
Oui, c'est chouette.
1A.
Franchement, moi j'ai connu le Berscott, ça s'appelait Germinal et Keren. et j'ai joué aussi contre le Berscott. Mais c'est bien parce que ça fait un derby dans la ville, donc c'est toujours intéressant.
Alors que les Framborin, petite info, 13e, 31 points, maintenant 5 points d'avance sur Ostende, à 2 matchs de la fin, si je compte bien, donc ça devrait se maintenir en Challenger Pro League pour les Framborin. Petit clin d'œil, évidemment, au CIO du club, Pascal Chimé, qui a passé 14 ans dans ce studio à mes côtés, à nos côtés, Nordine. Le RFC Liège, 7e position, juste derrière la 6e, ça c'est logique, mais c'est surtout qu'évidemment, de la 3e à la 6e place, on va jouer là aussi une sorte de play-off, de match de barrage avec les 2e et 3e des play-downs. Vous me suivez toujours pour qui sait se maintenir en Pro League ou donc monter de la Challenger à la Pro League. Le RFC Liège est juste aux portes de cette 6e place avec 43 points maintenant, à 3 points de Zulte Waregem. Ce sera compliqué évidemment dans la suite et la fin de cette phase classique en Challenger Pro League. En Angleterre, c'est terminé 3-1 pour Tottenham contre Nottingham. En Italie, 1-0 pour la Juve, 40 minutes de jeu contre la Fiorentina. Et puis en France, Nantes mène 1-0 contre Lyon, 40 minutes de jeu dans cette rencontre. Cette rencontre, et rapidement je jette un petit coup d'œil, pas de Belges dans le 11 lyonnais. Et puis bien sûr, concernant la prestation de nos Belges, nos Diables Rouges, je vous donne rendez-vous comme à chaque fois via l'application ou le site RTBF Actu.
Envoyez-nous vos messages via WhatsApp au 0470 072 023. Complètement foot. Spécial Jupiler Pro League.
On va continuer donc le débriefing des matchs de Champions Playoff, mais un peu en parallèle évidemment, un club bruxellois contre un club brugeois avec le même résultat, les deux clubs bruxellois battus par les deux clubs brugeois. Dans un instant, Manuel Jousse va nous rejoindre, il était au commentaire de ce match, donc Club de Bruges Anderlecht 3-1, on va y venir. C'était bel et bien en français en direct et en intégralité sur Vivacité, mais je voudrais continuer le débriefing de la défaite de l'Union Saint-Gilloise contre le Cercle 2-3 et vous proposer l'interview hebdomadaire, certes, mais toujours important, d'un avis avisé, celui d'Anthony Maurice à l'issue de ce match. On l'écoute, le gardien des unionistes.
Grosse désillusion, votre sentiment sur ce qui s'est passé aujourd'hui? On a joué 8 minutes trop tard. Voilà, on n'était pas présent dès le début de match. On savait que cette équipe de cercle allait mettre une grosse pression en jouant des longs ballons, que c'est le style de cette équipe. Et on encaisse deux goals là-dessus. On était prévenus. Donc voilà, après, la réaction était bien. On a vu qu'on n'a pas douté. On s'est remis en avant. Je pense qu'on a eu des possibilités. Mais il faut être plus tueur et je pense qu'on a senti qu'on pouvait revenir et gagner ce match. Et le tournant, bah, c'est clairement leur troisième but. Parce que je pense que si on arrivait à tenir l'organisation jusque tard dans le match, il y avait la possibilité de revenir. Donc voilà, il faut apprendre encore de ce match.
Alors, vous parlez des tournants, il y en a d'autres et qui étaient favorables à l'Union lors de la phase classique. Et ici, ça fonctionne moins. J'en veux pour preuve l'occasion de Nilsson quand le cercle fait 0-1. Grosse occasion pour Nilsson. Boum, contre-attaque 0-2. On a vraiment l'impression que pour le moment, ça ne fonctionne pas en fait.
Ouais, non, on va pas s'apitoyer sur notre sort. C'est comme ça, pour le moment, voilà, il faut trouver cette efficacité, cet esprit tueur dans les deux rectangles, parce qu'au final, les playoffs, c'est ça, c'est des matchs de grosse intensité qui vont jouer sur des détails. On a vu les deux matchs ici, on l'en prend à notre dépens. La chance qu'on a, c'est qu'on a encore 8 matchs derrière pour réagir, dont un gros la semaine prochaine. Et là, on verra vraiment le caractère de cette équipe et la mentalité.
Anthony Maurice au micro d'Ebi Brouzakis. Évidemment, il ne savait pas encore en plus, ça rime, mais il ne savait surtout que le Sporting Anderlecht allait être battu au Club de Bruges pour poursuivre donc sur le débriefing du match des Unionistes et l'analyse d'Anthony Maurice
Nordine. Son analyse, c'est le capitaine de l'équipe, il doit rester positif. Il dit qu'ils ont réagi. Je trouve pas qu'ils ont vraiment bien réagi. Ils ont eu du mal à produire du jeu, ils ont eu du mal à avoir des occasions. Après, c'est vrai que c'est dû aussi à ce jeu atypique du cercle de Bruges qui balance et qui est dans les duels, qui est dans le deuxième ballon. Voilà, et certains joueurs qui sont pas encore au niveau de ces play-offs. Malapoussin qui a bien terminé le match, mais qui a pas fait un bon match par rapport aux qualités qu'il peut amener à cette équipe. Je l'ai dit. Plusieurs joueurs, cette défense pas bien quand Burgess n'est pas là, et ça c'est quand même compliqué quand on joue le titre, quand un joueur n'est pas là, c'est pas n'importe quel joueur, c'est Burgess, donc voilà,
surtout à cause d'un mail arrivé trop tard, on le rappelle,
donc ouais, surtout parce qu'il a pété les plombs à Genk. C'est surtout ça pour moi, au départ.
Merci de le rappeler, Nordine, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est vrai, avant qu'on parle de ce problème disciplinaire.
Après il a raison. La chance qu'ils ont, c'est qu'Anderlecht n'a pas pu mettre cette pression sur l'Union, parce qu'ils ont perdu à Bruges, et donc ça reste comme c'était avant le match. Donc ils doivent maintenant se reprendre et aller vers l'avant.
Mais quand même, un petit mot sur ces 10 premières minutes bizarres du côté...
Mais ces 10 premières minutes bizarres, c'est...
C'est à cause de l'absence de Burgess, entre autres.
Burgess, en fait, le problème, c'est quand tu joues contre le cercle de Bruges qui balance, Burgess est très important parce qu'il gagne tous les duels de la tête. Ils n'étaient pas là, ils ont été en difficulté. Et puis en plus de ça, Van Aert, normalement, au milieu de terrain, est un joueur très intelligent dans son placement. Donc il aurait été intéressant pour le deuxième ballon que tu dois jouer contre le Cercle Bruges. Il était en défense. Donc ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses.
Je vous propose d'écouter Alexander Blessin à l'issue de ce match en interview officielle Pro League. On l'écoute, c'est un peu long, un peu moins d'une minute en anglais. Donc, et je traduis juste après, on l'écoute.
Coach, what did you say to your player just after the game?
It's about the situation that we had really 10 shit moments, 10 minutes where we lose the game. I think we started and we know about their playing style, and we were not prepared for this, making really stupid mistakes in our communication and our defending behavior. And after, I think, 7 minutes, it was 2-0, and then it's against this team. Very difficult to come back. We make then the 2-1, we come back. And I said we had enough chances to make the second goal. And this was absolutely clear. And we had really a lot of chances. Two defeats now in the starting in the playoffs. So we have still eight games to go. And this is now the decision of the players, taking the heads into the sand, sticking the heads into the sand, or standing up.
Donc il faut soit rester debout, soit se mettre la tête dans le sable, puisqu'il y a eu deux défaites pour ces deux premiers matchs. Mais il a dit, il l'a répété, on a entendu dans Anthony Maurice juste avant, le message est déjà passé auprès des joueurs, il reste 8 matchs, c'est ça les playoffs, dans cette rencontre. Mais il y a rien à faire, il y a eu 10 shit minutes, donc 10 minutes de M, si vous me passez l'expression. Pourtant on le savait, on connaissait leur style de jeu. Il dit on n'était pas prêt. Alors là je suis pas tout à fait sûr, est-ce qu'il dit on était n'étaient pas prêts à leur style de jeu, ou plutôt lui n'était pas prêt à avoir autant d'errances et d'erreurs défensives. Voilà, dans la traduction, on joue peut-être un peu sur les mots.
Je pense qu'il connaît très bien le style de jeu du Cercle. Ouais. Il a préparé son équipe à ça, mais son équipe, les 10 premières minutes, n'était pas prêt, malgré qu'il a préparé
ça. Et pourtant, il dit, on a eu quand même l'occasion de revenir dans ce match. Hein.
Non, mais c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que tu peux préparer le match, on ne va pas se répéter. Il n'y a pas Burgess qui gagne tous les duels. Ça, c'est la première chose. Machida, Essex, n'était pas bien. N'était pas bien, était en difficulté. Van Hout, à droite de cette défense à 3, c'est pas bon. La seule fois où il a bien joué, c'était quand il était dans l'axe de cette défense à 3. Et puis, des joueurs comme McAllister qui sont pas encore prêts. Donc voilà, c'est quand même deux joueurs importants, McAllister et Burgess, qui sont pas là, c'est compliqué. Enfin, pas là, McAllister était là, mais il a pas joué.
Deuxième extrait court de l'interview d'après-match officielle Pro League d'Alexander Blessin. Vous parliez de fébrilité peut-être dans les rangs unionistes. On l'écoute sur la confiance encore du côté de l'Union Saint-Gilloise. On l'écoute.
I think there is a lack of confidence.
I don't know. It's not like this that we played a really good season, a championship, and now it's for sure the pressure is there, but we have to handle it. And this is now our mission to come back, standing up and thinking positive. Still 8 runs, 8 games to go, and for sure at the end we have to find our performance.
Ouais, on doit retrouver notre niveau. Hein. On a bien joué tout au long de cette championnat, de cette phase classique, mais voilà, la pression des playoffs est là. Nous devons pouvoir jouer avec elle, et forcément, il reste 8 matchs. Il se répète, Alexander Blessin.
C'est le blessing que je connais, qu'on connaît, c'est-à-dire positif. Bon dans l'analyse de ce qui s'est passé. Est-ce que sa sortie d'avant-match...
En conférence de presse vendredi.
Est-ce que c'était pour mettre la pression sur Anderlecht et sur les arbitres? Malheureusement, ça a fait l'effet inverse.
Nordine Jbari, donc pour cette défaite de l'Union Saint-Gilloise qu'on va mettre en parallèle évidemment tout de suite avec celle du Sporting d'Anderlecht. Ben voilà, ces deux-là restent en tête évidemment. 35 points pour les deux, on le rappelle. Le Sporting d'Anderlecht dans la division des points par deux a bénéficié de l'arrondi à l'indice supérieur. Et donc, quoi qu'il arrive, si ces deux-là terminent à égalité, c'est bel et bien les unionistes qui restent devant. Il faudra le rappeler à chaque fois. C'est important évidemment pour le classement. Le Sporting d'Anderlecht, donc dans un instant. L'Union Saint-Gilloise, mais justement au Sporting d'Anderlecht dimanche prochain. La pression à mener dans ces playoffs, ben là plus que jamais le duo, le mano à mano, le duel, c'est l'un contre l'autre dès dimanche prochain.
Ouais, ça va être costaud pour l'Union qui joue en déplacement, qui joue en Anderlecht avec cette équipe d'Anderlecht qui a perdu et qui va devoir se reprendre. Alors vous allez me dire, l'Union aussi a perdu, elle va devoir se reprendre aussi. Donc ça va être un gros match. Après. Anderlecht, je pense que Anderlecht, aura plus de pression parce qu'Anderlecht doit gagner. Un match nul de l'Union, ça peut être intéressant aussi.
On va parler du Sporting d'Anderlecht, justement, battu par le club de Bruges, 3-1. On enchaîne avec Manuel Jousse, qui était au commentaire sur Vivacité, un journaliste RTBF Sport, pour analyser cette rencontre. Bonsoir, rebonsoir, mon cher Manu.
Ouh! Rebonsoir mon cher David, bonsoir mon cher Nordine.
Dans le noir.
Oui, ça redevient une nouvelle tradition le dimanche soir dans complètement fou. On en aura fait des choses en 15 ans, mais Manuel Jousse le dimanche soir dans sa voiture sur le parking du stade avant de rentrer chez lui dans le noir, ça va rester un classique je pense mon cher Manu.
Oui, enfin dans le noir, dans la pénombre, hein, parce que j'atténue le noir quand même par la lumière de mon plafonnier.
Enfin, ah mais ça marche pas, ça marche pas. Pour la
comment ça ne marche pas? Alors je l'éteins.
Moi je pensais que vous étiez un pro, que vous preniez toujours avec un spot. Non, vous preniez pas toujours avec un spot.
On me souffle que c'est encore pire si on met un spot. Donc voilà, très bien. Donc je vous conseille à chaque fois, évidemment, même si je vous le rappelle pas assez souvent, qu'on est en live vidéo aussi sur l'application Ovio, sur l'application RTBF Actu. En un seul mot, complètement foot. J'espère que vous avez eu le temps d'y réfléchir, Manu, parce que je pense que Nordine l'a fait. Ce match, Club de Bruges, score final 3-1, pour vous, c'était?
Alors, en un seul mot, moi, je vais dire intensité.
Pourquoi?
Parce que j'ai vu un Bruges mettre une intensité que je ne l'avais plus vu mettre depuis des mois, franchement, et à laquelle Anderlecht n'a jamais réussi vraiment à répondre avec ce but qui est tombé très très tôt et ensuite les Brugeois n'ont quasiment jamais relâché leur étreinte et ça a posé beaucoup de problèmes au Sporting.
d'accord avec ça avant de donner votre mot aussi. Nordine. Oui, l'intensité, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Brugeois comme ça.
Oui, c'est vrai, on avait vu la deuxième mi-temps contre le Cercle, ils étaient pas mal aussi. Mais c'est vrai que l'intensité, quand, dans un match comme ça, vous devez mettre l'intensité et c'est ce qui fait la différence, gagner les duels, être prêt, surtout contre des joueurs comme Anderlecht qui sont fort techniques, comme Thorgan Hazard par exemple, être très proche du porteur du ballon et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ouais, c'est vrai.
En un seul mot complètement fou de ce club de Bruges-Anderlecht, score final 3-1. Nordine Jabari, pour vous c'était
efficace. Efficace parce que ils ont marqué quand il fallait. On est Dika qui comme la Manu l'a dit pendant le match qui marque jamais. Je crois que c'est ses deux premiers buts hein. Voilà contre Anderlecht, deux beaux buts en plus hein, pas n'importe quel but. Je trouve deux belles frappes. Même si la deuxième il a un peu trop le temps hein, de vraiment la placer. Vertonghen qui sort pas mais c'est parce qu'il a voilà il est un peu entre les deux. Mais c'est vrai que cette équipe brugeoise, très intéressante. Thiago, de nouveau, je trouve, a été bien. Ça faisait longtemps qu'il pesait un peu, il pesait un peu moins, je trouve, sur les défenses adverses. Là, il a pesé. Et puis, cette défense, de nouveau, qui est costaud, hein. C'était le point faible à l'époque, du club de Bruges.
Manu, vous vouliez réagir?
Oui, et ben, confirmer ce que Nordine disait, dire que j'étais très séduit aussi par Skorach, le milieu de terrain offensif polonais, oui, qui est l'auteur des deux assists aujourd'hui, qui a été présent dans énormément de mouvements de Bruges, qui, je le rappelle, jouait quand même sans Van Aken et Skovolsen, hein, ce qui semblait à la base un handicap. Et maintenant, c'est vrai que j'ai écouté la conférence de presse de Brian Riemer et ben, il remettait ses félicitations à Bruges par rapport aux trois buts, justement, parce qu'il disait que les trois buts, on sait qu'il aime les datas, hein, en termes d'expected goals, ça n'allait pas très haut. Sous-entendu, c'était des buts qui n'étaient pas si évidents que cela à mettre. Le premier, c'est la première fois de la saison qu'Anderlecht prend un but sur une phase de corner direct, donc centre, reprise, but. Et les deux autres, ce sont des frappes de loin où effectivement, ben, il y a des petits problèmes de marquage, mais où la probabilité que ça finisse au fond, surtout partant du pied de Niedika qui ne marque jamais, n'était pas très élevée.
Non, mais c'est vrai, effectivement.
En avant l'efficacité sur les buts, mais vous deux, mettez quand même en avant surtout l'intensité mise par les Brugeois.
Hein. De toute façon, dans les play-offs, il faut mettre de l'intensité. Moi, j'ai fait l'Antwerp Gang qui avait une intensité de dingue. Ici, c'est une intensité très forte. Le Cercle de Bruges met de l'intensité, on le sait, mais voilà, il faut l'Union était moins dans l'impact. Était moins dans l'impact, moins dans l'intensité. Dès que vous diminuez un petit peu l'intensité dans ces play-offs 1, parce que c'est dans ces play-offs 1, toutes les équipes savent mettre de l'intensité. Quand vous jouez tout un championnat classique, toutes les équipes peuvent pas répondre à l'intensité. Dans les play-offs 1, toutes les équipes peuvent le faire.
Le club de Bruges qui a battu le Sporting Anderlecht 3-1 avec ce but qui tombe très tôt, tête de Mekele dès la troisième. Réaction interview au micro de Manu Ajoux, celle de Thorgan Hazard. Comment expliquer cette défaite ou si justement ils ont été cueillis à froid par ce but? On l'écoute.
On rentre pas bien dans le match. Ce but tombe vite, ça nous plombe. Je crois un manque peut-être de concentration sur phase arrêtée. Et puis, ils prennent confiance. Ils sont dans les duels, ils sont à domicile avec le public. Ça chauffe un peu. On n'arrive pas vraiment à poser le jeu. On joue un peu trop des longs ballons à mon goût. Mais après, voilà, on essaye de revenir. Fin de première mi-temps, c'est un peu mieux. Et puis, on se crée quand même quelques occasions sans marquer. Et après, une fois que c'est 3-0, l'écart, il est un peu trop grand. Je pense que si on met un 2-1, je pense qu'on peut encore revenir parce qu'avec nous, cette saison, c'était souvent le scénario comme ça où on était mené et qu'on revenait. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu parce que c'était déjà 3-0.
Vous aviez été prévenu d'une telle entrée en matière de Bruges aussi agressive dans la préparation ou c'est quelque chose qui vous a un peu surpris quand même?
Non, on n'est pas surpris. On sait que Bruges, à la maison, ils voulaient se racheter et puis c'est les play-offs. Donc, tu sais très bien que quand tu gagnes deux matchs d'affilée, tu te remets en bonne position et je pense que c'est ce qu'ils voulaient et on l'a bien vu dans l'intensité qu'ils ont mis dès le début de match.
C'est vraiment l'intensité de Bruges qui vous a posé problème, pas l'éventuel fait que vous pouviez repasser devant parce que l'Union avait perdu, c'est un truc qui a joué ça ou pas du tout?
Non, je pense pas. Après ouais, on avait vu le résultat de l'Union juste avant, donc on savait qu'on avait la possibilité de passer, d'être tout seul devant. Mais voilà, maintenant avec ce scénario-là, tout le monde ça se resserre pour la compétition, ouais, c'est peut-être bien, mais nous, on aurait voulu prendre un peu d'avance parce qu'on joue l'Union à domicile la semaine prochaine. Bah, il reste 8 matchs, ça va très vite dans les playoffs et on est toujours quand même dans une bonne position.
On le savait avant les playoffs, mais ce match-là, troisième journée, le Anderlecht Union, il va être crucial quand même.
Ouais, même si tout sera pas joué, tout sera pas définitif après ce match-là, mais c'est sûr que celui qui gagne sera dans une bonne position.
Torgan Hazard au micro de Manuel Jousse. Après cette défaite, bon, on ressort les mêmes phrases du côté unioniste et du côté anderlechtois. Évidemment, il reste 8 matchs, c'est ça les playoffs, rien n'est joué. Mais comment vous avez senti les anderlechtois? Parce que c'est quand même une lourde défaite contre les Brugeois, Manu.
Déjà, je trouve, on n'arrête pas depuis la semaine dernière de souligner la nervosité qui habite les rangs de l'Union Saint-Gilloise. J'ai trouvé un Anderlecht quand même assez nerveux aujourd'hui aussi. Brian Riemer, pendant toute la première mi-temps, n'a pas arrêté de contester, de gesticuler. Il a pris une carte jaune, d'ailleurs, pour cela. Il y a eu des phases de mésentente. Parfois, je pense à une balle en retrait de Bast qui a mis Schmeichel en difficulté, qui a été presque s'encastré dans les panneaux publicitaires. Il y a eu des gestes ratés qui ne le sont pas d'habitude. Donc, je pense que la nervosité dans les playoffs, elle habite tout le monde. Et effectivement, tout le monde tient le même discours. C'est encore le début. Il reste encore 8 matchs. Ce qu'on peut constater avec cette formule de play-off et la division des points par deux, c'est que non seulement ici on a les deux premiers qui font du surplace et qui perdent tous les deux en simultané, mais on a deux équipes, Genk et Bruges, ouais, qui se replacent, ouais, qui sont à 5 points. Et donc finalement, 5 points en 8 matchs, faut-il encore parler de lutte exclusivement à deux? Faut-il élargir en parlant de possibilité de lutte à 4? À cela, les joueurs répondent que finalement, ça reste une lutte à 6 et que c'est parfois aussi les équipes dont on parle le moins qui peuvent faire le plus de mal. Donc voilà, on sait, ouais, comment ça se passe. Les vérités d'un week-end ne sont pas celles du week-end suivant. Mais je pense que un Genk en toute décontraction et un club de Bruges qui se replace maintenant, il faut pas les négliger non plus.
Ouais, on va enchaîner là-dessus. Alexander Blessin, il a dit stand-up, hein. Lui, il a pas dit à 6, il a dit plutôt debout. Nordine, donc, Genk et le club de Bruges qui se replace, votre avis, qu'en pensez-vous de ce débat lancé par Manu?
Non, mais c'est vrai, et moi le premier, hein, on avait tous dit, voilà, qu'il y avait un duo pour le titre. Après, moi, je parle toujours de ce match de Genk. Mais dans les couloirs de Genk.
Vous avez été impressionné par les Limbourgeois, Nordine?
Oui, ben de nouveau. Ben en fait, Vranken a trouvé enfin un système où les joueurs peuvent vraiment s'exprimer. Les joueurs comme Elhadj, comme Elkanous, même si Elkanous déjà pendant la saison s'est exprimé très souvent. Mais là, il y a vraiment quelque chose vraiment d'assez intéressant. Et puis dans les couloirs après le match, des joueurs comme Kayembe, ça criait. Nous, on y croit. Nous, on y croit. Ils gueulaient ça vraiment, ils sont venus en rigolant. Nous on y croit. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se crée là-bas dans ce groupe-là. Après, maintenant il faut aussi que il y a 5 points d'avance. Il faut aussi qu'Anderlecht et l'Union se reprennent. Il faut que ces deux équipes se reprennent. S'ils se reprennent, normalement, ils pourront aller vers l'avant. Mais il faudra quand même se coltiner des équipes comme Genk et Bruges. Moi, j'avais dit que Bruges allait être l'arbitre de ce titre. Ben, il y a deux arbitres maintenant. Hein. C'est Genk et Bruges. Et on verra comment ça va se terminer.
Il y a Genk Cercle de Bruges, tiens, justement, dimanche prochain. Manu, du côté brugeois, cette victoire, ben voilà, vous l'avez dit, il se replace quand même dans cette lutte à 6 pour les play-offs 1, pour les Champions Play-offs, mais il y a surtout un match très important, jeudi, à domicile, contre le PAOK. Il va falloir marquer les esprits et marquer tout court dans cette manche aller, donc, en Conference League. Est-ce qu'on en a déjà parlé de ce match de Coupe d'Europe, de jeudi, Manu, du côté brugeois?
Ouais, ben on en parle, c'est clair, hein, parce que c'est ben il y a quelques semaines d'ici, franchement, je n'aurais pas donné cher de leur peau aux Brugeois en voyant comment ils évoluaient, en sachant ce que sera le match retour là-bas à Salonique. Nordine connaît l'endroit, ouais. Je pense qu'il pourra en dire un mot aussi, hein, pour avoir joué à l'Aris, mais le PAOK, c'est pas triste. Mais à voir l'état d'esprit aujourd'hui, si les Brugeois jouent avec cet engagement-là. Et sachant qu'il y a quand même des choix de prudence qui ont été faits aujourd'hui, parce qu'en forçant un peu Mignolet, Skovolsen, il pouvait être là, ça n'a pas été le cas. Van Aken malade, on peut imaginer qu'il ne le sera plus jeudi. Donc on va retrouver un groupe au grand complet, un Zinkernagel qui a joué juste 5 minutes aujourd'hui, mais qui sera disponible pour jeudi aussi. Donc franchement, il y a une belle carte à jouer. Et je répète, Bruges aura vraiment intérêt à faire la plus grande différence possible à l'aller avant de se rendre à Salonique. Et je pense qu'il y a quand même une petite priorité qui avait été mise ici sur ce match-là avant le topper d'aujourd'hui. Et c'est bien compréhensible, quand un club belge peut jouer un quart de finale de Coupe d'Europe, on ne va pas se dire que ce n'est pas important.
Non, c'est vrai, ils ont raison. De toute façon, le club de Bruges a toujours voulu jouer sur tous les tableaux, ça c'est certain. L'Europe est toujours très important pour eux. Après, le nouveau staff, c'est 4 sur 6. Hein. 4 sur 6, donc c'est positif. Mentalement, c'est bien. On sait bien que dans ce genre de match, la confiance peut faire la différence. Et Bruges est en train de prendre de la confiance avec la deuxième mi-temps contre le Cercle. Le match ici contre Anderlecht, on sait que c'est toujours très important pour un staff, pour les joueurs, devant le public, de gagner contre Anderlecht. Donc ça peut relancer une machine, ça c'est sûr et certain. Et puis comme il a dit Manu, Skovolsen, Van Aken. Après, il faut voir ce qui se passe avec Nielsen. Hein. Apparemment, son absence là peut-être va durer, je ne sais pas.
Bon, rendez-vous jeudi, évidemment, ce sera en direct sur tous les médias de la RTBF, sur Tipeee, en télé et en radio ici sur Vivacité pour ce club de Bruges PAOK en quart de finale de la Conference League. Merci beaucoup Manu et Jous pour ce débriefing, on vous laisse filer. Mon cher Manu, rentrez à la maison et prudence, vous pouvez rallumer la lumière.
Oui, enfin filer c'est un grand mot quand il faut quitter les environs de Bruges, hein. Vous le savez bien, c'est toujours l'entonnoir, hein. Donc on va faire de notre mieux.
Courage et prudence, on va continuer ce complètement foot. On reparlera d'ailleurs du Racing Genk, du club de Bruges qui se repositionne dans ses Champions Playoffs dans les prochaines minutes avec Pieter-Jan Kalkoen, journaliste à Utnieuwsblad, notre journaliste donc qui est évidemment du côté néerlandophone et qui chaque dimanche soir nous livre son vu de flanc. Donc on verra comment ces différents résultats de la deuxième journée dans ces Champions Playoffs et ces Euro Playoffs aussi avec la Gantoise qui domine puisqu'ils se sont imposés les Buffaloes ce soir, je vous rappelle 0-3. On en parlera entre autres avec Pieter-Jan. Dans un instant, on vous parle des Red Flames qui ont été battus vendredi par les champions du monde espagnols 0-7. Lourde défaite, les conséquences de celle-ci. On va faire le débriefing et le point avec Lise Burion. Il y aura le deuxième match pour nos Red Flames qualificatifs pour cet Euro 2025. Ce sera mardi en déplacement au Danemark. Donc on évoque cela dans un instant. Vous continuez à réagir. Donc je vous rappelle les résultats. Champions Playoff, l'Union battue par le Cercle de Bruges 2-3. Anderlecht battue par le Club de Bruges 3-1. Donc c'est une boîte de nuit ici, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus fort dans mon casque d'un coup. Si on pouvait me baisser un tout petit peu, voilà, comme ça j'ai pas l'impression de crier. Si vous voulez bien baisser un tout petit peu le son de la musique, baisser un tout petit peu le son de la musique s'il vous plaît, je me permets d'insister, voilà, c'est un peu mieux, je sens pas vraiment la différence mais c'est un peu mieux. Bon bref, voilà, je vais me débrouiller avec ça. Union Cercle de Bruges 2-3, Club de Bruges Anderlecht 3-1, donc 35 points pour les deux, tout le monde reste sur ses positions dans ce duel. On l'a bien compris, le club et le Genk et le Racing Genk se rapprochent. En Europe Playoff, donc la Gantoise qui a battu Westerlo 0-3. En Playdown, un but partout entre la SEPN et Courtrai. Des résultats importants, vous rappelez aussi en Challenger Pro League. Les Framborins ont partagé contre le FC Liège 2-2. C'est pratiquement le maintien pour les Borins. Et on lutte encore pour la sixième place du côté de Liège, mais à 2 points de Zulte Waregem, donc qui est sur cette fameuse sixième place. Et puis un peu plus tôt, j'ai oublié de vous le rappeler, les U23 du Standard qui ont été battus par les U23 du Racing Genk, mais c'est surtout officiel, les U23 du Standard vont eux faire la bascule vers la Nationale 1 qui va être une Nationale 1 uniquement 100% francophone. Ça, on va essayer de vous en parler dans les prochaines semaines, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'au niveau des licences pour pouvoir justement se déclarer et pouvoir jouer cette Nationale 1 francophone, ça ne se précipite pas au portillon encore pour l'instant.
Et surtout qu'on n'a pas encore reçu le mail.
il va arriver ce mail, ne vous inquiétez pas Nordi. Mais donc on vous reparlera de cette Nationale 1 francophone qui s'annonce pour la saison prochaine et dans laquelle, donc ça c'est beaucoup moins drôle, mais les U23 du Standard joueront puisqu'ils sont derniers de cette Challenger Pro League et battus aujourd'hui. En Angleterre, victoire de Tottenham contre Nottingham 3-1, partage de Chelsea à Sheffield United 2-2, 2-2 aussi le score final à Manchester United Liverpool donc en tête, mais égalité de points avec Arsenal, 71, un seul petit point d'avance pour ces deux-là sur Manchester City. Dans les matchs en cours, la Juve mène 1-0 contre la Fiorentina avec début de la deuxième mi-temps dans ce match. Et puis là aussi dans les matchs en cours, début de deuxième mi-temps à Nantes-Lyon et le score est là aussi de 1-0.
Donnez votre avis via WhatsApp au 0470 072 023. Viva, 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 complètement foot. Spécial Jupiler Pro League.
J'ai glissé, chef, on m'explique. Vous êtes témoin, hein. Monsieur Mathieu qui fait son grand retour aux manettes de combat. Il me dit c'est pas bien, mais bien sûr que je vais te balancer.
Ouais,
et il me dit j'ai glissé, chef. Ils font tellement bien leur boulot en régie et je les félicite. Et je dis merci à Déborah, merci à Eileen qui bosse aujourd'hui en coulisses, merci à Mathieu et bravo pour ta paternité naissante ou en tout cas arrivée il y a peu. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis on accueille aussi un petit nouveau qui va découvrir complètement foot chaque dimanche.
Sympa.
Louis qui est en stage à la RTBF Sport et donc à qui on a proposé de venir passer les dimanches soirs avec nous dans Complètement Foot. Ouais. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, c'est lui qui nous le dira en fin d'émission. Lise Burion elle commente les Red Flames, mais elle connaît aussi l'ambiance de Complètement Foot puisqu'elle me remplace régulièrement. Elle est en direct avec nous à distance. Salut Lise.
Bonsoir les gars, tout va bien ?
Salut.
Très très bien, et vous-même ? Une belle journée, hein, Paris-Roubaix, et puis un débriefing de Red Flames avant de prendre l'avion demain matin très tôt, si j'ai tout suivi.
Oui, c'est tout à fait ça. Vous voulez que je vous débriefe Paris-Roubaix peut-être ? C'est un peu la même chose en fait, c'est une championne du monde qui gagne, si on parle des dames. Et chez les messieurs aussi, c'est un champion du monde qui a gagné.
C'est vrai que là, la championne du monde Lotte Kopecky hier, le champion du monde Mathieu Van Der Poel, et puis surtout vendredi, parce qu'on va parler de ça, parce que sinon on va manquer de temps, Lise, et le reste de l'équipe va encore me tuer en disant que j'ai du retard dans la conduite. Ce match de vendredi, oui, c'était une fête. Il y avait énormément de monde à Dundreef. On voulait voir, je suis sûr, les familles, les enfants voulaient voir les championnes du monde à l'œuvre. Mais on n'avait pas pensé, évidemment, que ça allait tourner comme ça pour nos Red Flames. 0-7. D'abord, votre avis sur ce match et cette lourde défaite quand même dans les têtes belges, Lise.
Oui, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une défaite. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas le cacher. Les Red Flames étaient très motivées. Elles avaient dit on est capable de sortir un résultat. Et on l'avait vu, hein, contre l'Angleterre ou contre les Pays-Bas il y a quelques mois. Mais l'Espagne, c'est quand même encore autre chose. Et on a eu l'occasion de s'en rendre compte. À vitesse réelle, c'est assez impressionnant. Les Espagnols, ce qu'elles arrivent à faire, elles se trouvent les yeux fermés. C'est un jeu à l'espagnol, hein, qu'on connaît chez les messieurs, bah chez les dames, c'est pareil. Et là, on a vu, on a compris pourquoi elles étaient championnes du monde. Donc une défaite, bon, c'est pas ultra choquant, hein, pour des Red Flames 18e mondial face aux championnes du monde. La défaite, elle est lourde quand même dans les chiffres. Le 0-7, il est très très lourd. 0-5 peut-être, on aurait pu se dire bon, ça reste lourd, mais pourquoi pas, sont les championnes du monde. Mais elles ont joué jusqu'au bout en fait, les Espagnoles, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est de se dire que cette équipe, bon allez, à 0, même à 0-3, 0-4, elles vont peut-être lever le pied. Pas du tout, elles ont continué. C'était 0-3 à la mi-temps quand même, mais elles ont continué à enfoncer le clou jusqu'à la fin du match sur ce 0-7. Et c'est ça qui est impressionnant en fait. Elles n'ont absolument pas laissé la moindre chance aux Red Flames, qui pourtant n'ont pas si mal joué que ça. Hein, les Red Flames, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles le disaient en fin de match, on a tout donné, on a fait ce qu'on pouvait, mais on mesure la distance effectivement qui reste à parcourir pour arriver à monter ne fût-ce que jusqu'au top 12 mondial, qui est l'objectif à court terme de la fédération d'ici les 5 ans qui arrivent, d'arriver à la 12e place. Ce serait déjà pas mal, mais il y a quand même encore 11 places d'écart avec l'Espagne qu'on a vu vendredi.
Ouais, ça c'est vu vendredi. On va parler de ce deuxième match contre le Danemark dans un instant, évidemment, et rappeler le principe pour se qualifier pour cet Euro 2025. Ouais. Pour celles et ceux qui ne regardent pas encore les Red Flames, hein, on le rappelle, c'est en direct sur la RTBF, c'est en direct sur Tipeee ou sur Ovio, en direct sur Vivacité. On a suivi aussi ce match. S'il fallait en retirer une de ces championnes du monde espagnoles, vous direz quel nom, vous, alors, Lise?
Bah ici sur le match de ce vendredi, il y a le triplé de Salma Parauelo, évidemment, qui est la pépite qu'on avait déjà vue à la Coupe du Monde l'été dernier, hein, la joueuse de Barcelone, un pied gauche en or, et si elle travaille encore un peu plus son pied droit, ça va être assez incroyable ce qu'elle va arriver à faire. Elle aussi va décrocher des ballons d'or, comme Alexia Putellas qui était là vendredi, d'où le ballon d'or, ou Aitana Bonmatí qui n'était pas là vendredi. Donc c'est-à-dire que c'était pas la toute meilleure Espagne qui était là vendredi non plus. Il manquait en tout cas la meilleure joueuse du monde à l'heure actuelle, et vous avez vu ce que ça a donné tout de même. Mais pour revenir deux secondes sur ce que je disais là il y a quelques instants, elles ont joué jusqu'au bout. Mais les Espagnoles, il faut rappeler qu'elles sont qualifiées pour les Jeux Olympiques et que donc il y a des places à prendre, ou en tout cas à ne pas lâcher dans la sélection olympique, où on ne pourra sélectionner que 18 joueuses. Et donc je pense qu'il y a certaines joueuses qui, dans les matchs ici de qualification pour l'Euro, vont jouer leur place au jeu, et c'est pour ça qu'elles jouent à fond, et c'est pour ça aussi qu'elles vont sans doute jouer à fond contre le Danemark et contre la République tchèque, les autres adversaires dans ce groupe de quatre. Donc voilà, c'est une très lourde défaite, le 0-7. Mais je crois que les Espagnols vont continuer leur mode rouleau-compresseur jusqu'au bout de la campagne. Petite éclaircie peut-être, petit baume au cœur des Flames, quoi. Il va y avoir sans doute d'autres scores lourds, peut-être face à la République tchèque, peut-être un peu moins face au Danemark pour ces Espagnols, parce qu'il y a les jeux à préparer et il y a des places à gagner pour toutes ces joueuses.
Nordine.
Non, je voulais juste ajouter que les joueurs, que ce soit hommes ou femmes, qui ont un pied gauche en or, souvent elles ont un pied droit en plomb. C'est Maradona, c'est Messi, c'est impossible. Ils sont trop bons du pied gauche et tout est parti sur le côté gauche.
Les Danoises, ouais, les Danoises qui se sont imposées, elles, dans leur premier match, qu'attendent de cette deuxième rencontre là, à nouveau à suivre sur Tipeee avec vous, Lise, et avec Cécile de Gernier comme consultante. Qu'attendent de cette deuxième rencontre face aux Danoises qui, elles, ont déjà 3 points dans ce groupe 2?
Bah justement, ça risque bien d'être un match déjà clé dans cette campagne. Au moment du tirage au sort, on s'était dit, bah le Danemark, ça sera peut-être l'équipe où il y aura un coup à jouer, en fait, l'affrontement clé face aux Danoises pour viser une des deux premières places. Alors la première, on va dire qu'elle risque bien d'être réservée aux Espagnols, mais la deuxième, est-ce qu'il ne va pas y avoir un peu match entre le Danemark et la Belgique? En tout cas, elles peuvent pas se louper, les Red Flames. Elles se sont mises un peu la pression entre guillemets. Elles savaient que ça serait compliqué contre l'Espagne, mais ce match contre le Danemark, on l'a pointé depuis longtemps, et donc ça sera peut-être différent. Ça sera différent, c'est sûr, parce que ce n'est pas le même type de jeu. Les Danoises, elles sont 13e au ranking FIFA, et c'est un jeu un peu moins un foufou, on va dire, hein. Le jeu espagnol, il est complètement imprévisible. Elle se trouve les yeux fermés. Elle joue rapidement. Elle joue dans les petits espaces. Les Danoises, c'est peut-être plus un jeu, justement, comme l'Angleterre ou les Pays-Bas, qui convient mieux aux Red Flames finalement. Donc, il faudra voir surtout comment elles auront avalé, entre guillemets, digéré ce 0-7. Mais Cécile de Gernier me disait après le match, hein, c'est-à-dire sur notre site internet aussi, rtbf.be, que on se remet peut-être plus facilement d'un 0-7 ou d'un 0-5 que d'une défaite 0-1 à la dernière minute, en fait, dans les têtes. Le 0-7, ben voilà, c'était trop fort, il y avait 3 classes d'écart, c'est comme ça, on tourne la page et on passe à autre chose avec cet objectif, essayer d'aller décrocher quelque chose au Danemark, ne fût-ce qu'un point. Ça serait en tout cas déjà un bon résultat face à des joueuses mieux classées et qui sont aussi, comme les Espagnols, des joueuses qui jouent dans des clubs professionnels, toutes très nombreuses à jouer à l'étranger, les joueuses danoises. Alors les Espagnols, elles jouent à la maison, mais vous avez le Barça, vous avez le Real. Voilà, on peut déjà tirer la corde. On a les deux meilleurs clubs espagnols, et donc c'est professionnel en Espagne. Donc ça aussi, ça a expliqué quelque part un peu la différence de niveau. Tous les week-ends sont des matchs de haut niveau. Elles jouent en Coupe d'Europe aussi, ces Espagnoles, mais les Danoises aussi. Donc certaines Danoises, hein, pas toutes. Donc voilà, il va falloir s'accrocher. Mais les Flames, sur ce qu'elles ont montré vendredi, si elles ont bien digéré ce 0-7 et qu'elles affichent tout leur meilleur niveau, hein, parce qu'elles le disaient à chaque interview, on doit être à 100% si on veut signer un résultat. Eh ben, si elles y arrivent ce mardi, pourquoi pas? On verra ça en direct. C'est à 18h sur Tipeee et sur Viva Sport en DAB+.
Juste avant les matchs importants de Ligue des Champions chez les messieurs, dont on parlera un tout petit peu dans la dernière partie de Complètement Foot. Merci beaucoup, Lise. Comme ça, vous aurez double dose mardi, s'il vous plaît, pour débuter votre semaine de foot. Dans un instant, voilà. La bise, Lise. Dans un instant, les infos de 22h, un point sur l'actu. Et puis, bien sûr, la dernière partie de ce Complètement Foot avec, entre autres, je vous l'ai dit, mais je vous le rappelle, Peter-Yann Kalkoun, journaliste et Newsblad, qui nous rejoint tout de suite.
Pour ne manquer aucun podcast RTBF Sport, abonnez-vous. Nos podcasts sont disponibles sur rtbf.be/ovio ou via votre application podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.